Chapitre 13. Simone avait beau aimer sa sœur cadette, elle considérait que Sylvestre Ballant avait pris la bonne décision. Elle parlait de la situation avec Tom et Horace le lendemain de l'arrivée de Clémence au village. « J'ai l'impression que leur vie aurait été bien trop difficile. Chaque race doit rester à sa place. »« T'as raison, ma fille. » répondit Horace. Dès le début, c'était mon opinion, mais ça n'empêche pas que c'est bien triste de voir ta sœur de même. En tout cas, moi, je trouve que ça nous regarde pas. Tom se leva de table et jeta dans la poubelle les os de bœuf qui restaient dans son assiette. Son père le réprimanda aussitôt. Qu'est-ce que tu fais là, Tom? Tu sais bien que j'en fais un bouillon? Oui, c'est pour ça que je les jette. Papa, c'est pas mangeable, ces bouillons-là. Ça goûte rien, puis c'est clair comme de l'eau. T'en as fait un il y a 2 semaines, on peut attendre encore un peu pour en avoir un autre. Philomène approuva d'un hochement vif de la tête. De vagues nausées l'envahissaient quand son grand-père lui servait ce consommé à base d'os et de cartilage. Mais Horace leva lentement sa lourde silhouette pour s'offusquer. « Tu sauras, mon gars, que c'est de même qu'on reste en santé. Veux-tu que je te dise toutes les vertus d'un bon bouillon d'os? » Même si Tom allumait sa cigarette en se dirigeant vers la porte pour prendre un peu d'air, son père commença son énumération, sous les rires de Simone et de Philomène. « Ça aide à garder des os solides, ça empêche de tomber malade. C'est pas pour rien que j'ai jamais la grippe, tu sauras. En plus, ça améliore la digestion, et ma mère a toujours dit que c'était grâce à ça que sa peau et ses cheveux étaient aussi lumineux. » Philomène ricana derrière sa main, avant de lancer à son grand-père « Mais c'est pas bon du tout. Gustave dit que ça goûte la bouse de vache, Philo. » s'offusqua sa mère en lui assénant une tape sur le bras. « M'a lui en faire au petit veillette, moi, de la bouse. Tu parles d'un impertinent. » Scandalisé, Horace se dirigea vers la cuisine d'été en maugréant contre les enfants mal élevés. Quand il posa le pied dehors, la simple vue de la lune qui se reflétait dans la mer en contrebas suffit à faire baisser sa pression. Il prit place dans la chaise droite installée près de la porte et marmonna « Tant pis pour eux autres, ils attraperont des rhumes tout l'hiver. » Laissant son père ronchonner à côté de la maison, Tom finit sa cigarette et retourna dans la cuisine pour prendre son thé. Pendant l'été, il était parfois tellement épuisé qu'il allait se coucher sans même finir son dessert. Comme la majorité des pêcheurs, le blond oubliait les misères de l'hiver durant la belle saison. Il adorait quand la baie se réveillait au printemps, lorsque les travailleurs terriens engagés par la compagnie Robin commençaient à arriver. Mais contrairement aux autres hommes, pour la 2e année de suite, Tom avait hâte de haler sa barge. Même si la présente saison était moins pire que la précédente en regard de sa cohabitation quotidienne avec Freddy, il n'en demeurait pas moins que la naissance imminente du 2e enfant du couple l'agaçait sérieusement. Parfois, la jalousie le minait tellement que son corps se raidissait sans qu'il puisse le contrôler. « Tom, ça fait 3 fois que je te demande si tu veux une galette. Veux-tu bien me dire à quoi tu penses? »« Oh, à Clémence et Sylvestre, » mentit l'homme en baissant le regard sur sa tasse. « Faudrait bien l'inviter à souper avant qu'elle reparte. » Simone soupira avec lassitude et s'affala sur une chaise face à son mari. Elle jeta un coup d'œil vers le devoir de sa fille, qui lui semblait bien fait, et referma le cahier. « Oui, j'y ai pensé. » « Mais ça veut dire que je dois aussi demander à Jacqueline s'il veut se joindre à nous. »« Comment ça? »« Ben, mon frère est au courant de tout ce qui se passe au village. S'il sait que Clémence vient manger chez nous, il va s'attendre à être invité lui aussi. » Tom, dont la barbe commençait à être longue, recula sur la chaise droite et il grimaça en pensant au curé. « Je pourrais peut-être rester en mer plus longtemps ce jour-là d'abord, » proposa-t-il sur un ton ironique. « Franchement, Tom. » s'exclama Simone sans savoir si son mari pensait vraiment ce qu'il disait. « En tout cas, je vais passer au studio demain matin pour faire le message à Jean-Julien. Je vais les inviter tous les deux pour samedi soir. C'est sûr qu'il faudra que ton père s'occupe tout seul des vignaux cette journée-là. Je vais être prise à la cuisine pour un bon bout. « Je vais l'aider, moi, grand-papa, » lança Philomène qui venait d'arriver dans la pièce. « Avec Gustave. Il dit toujours qu'il est aussi fort qu'un homme, » expliqua la fillette. Son père sourit légèrement en voyant les jambes maigres de son aîné dépasser de sa jaquette, devenue trop courte en un été. « Bon, tu vois, c'est réglé, Simone. Papa pourra pas dire qu'on lui a pas trouvé des partenaires fiables. » L'homme éclata d'un rire bref. Au moins, pensa Philomène en s'avançant vers lui, « Papa a trouvé que mon idée était bonne. » Elle entoura maladroitement le cou de Tom de ses petits bras avant de plaquer un bec sur sa joue. Entre le père et la fille, les moments doux étaient bien rares. Depuis la noyade de son petit frère, Philomène avait souvent essayé de le dérider, mais elle avait rarement réussi. Même si sa mère l'avait assuré que ce n'était pas de sa faute si sa tante s'était endormie ce jour-là, la blondinette se sentait toujours coupable quand elle voyait la peine se glisser sur le visage anguleux de son père. « Je vais m'occuper de grand-papa, promis », chuchota-t-elle avant de retourner dans sa chambre. Depuis sa rencontre avec Rosalie Taillefer, le curé du village était plus que tourmenté. D'un côté, il voulait s'assurer de trouver un homme fiable et travaillant pour marier la jeune femme, et de l'autre, il aurait préféré la conserver pure et chaste dans une bulle de verre. Quand il se couchait le soir, le pauvre Jacqueline n'en pouvait plus de rêvasser. Il priait son Dieu pendant des heures chaque jour pour qu'il lui donne la force de ne pas succomber à la tentation. Honteusement, il réalisait que son corps manifestait des besoins qu'il n'avait d'autre choix que de satisfaire, malgré le péché. Avant son entrée en religion, l'homme avait embrassé une jeune voisine, une seule fois. Il n'avait pas de souvenir précis des réactions que ce baiser avait générées dans son corps, mais il savait que rien n'avait été aussi puissant que ce que la simple vision de Rosalie Taillefer lui faisait ressentir. Quand Simone pénétra dans l'église le lendemain matin avant d'aller sur la grave, il accepta aussitôt l'invitation à souper. « Quelle belle proposition! Ça va me faire du bien de me changer les idées !» lança joyeusement l'homme à sa sœur interloquée. Jacqueline n'avait pas l'habitude de s'exciter ainsi. Au contraire, il se faisait un devoir de rester distant et réservé, même dans ses relations fraternelles. Simone le questionna donc avec curiosité. « Veux-tu bien me dire ce qui te turlupine comme ça, Jacqueline ?» L'homme se racla la gorge en s'en voulant de sa réaction. Il se tourna vers sa cadette, debout dans l'allée centrale de l'église, puis il jeta un coup d'œil ennuyé sur Béatrice, qui s'était levée sur le banc près d'elle et y répondit « Tu sauras, ma sœur, que gérer une paroisse, ce n'est pas simple du tout. Quand même, il y a le maire pour ça. Ce n'est pas lui qui doit veiller à la moralité des villageois. » Simone se détourna en prenant sa fille dans ses bras pour éviter de riposter. « On n'est toujours bien pas dans un village de dépravés », eut-elle envie de s'exclamer. Parce qu'à part aux mères veillettes et deux ou trois bons hommes à surveiller, les hommes étaient travaillants et les femmes de bonnes ménagères. Bien sûr, la pauvreté obligeait certaines familles à rationner la nourriture et à repriser les vêtements plus qu'il ne l'aurait fallu. Toutefois, cela n'avait jamais été du ressort des curés. Les villageois s'entraidaient à Lons-à-la-Joie. Simone eut furtivement envie de demander à Jacqueline d'aller faire une visite à Géraldine, question de s'assurer de brasser son mari. Mais elle résista à la tentation, peu encline à entendre les commentaires négatifs que cette rencontre générerait de part et d'autre. Elle se tut un long moment pour réfléchir aux familles du village. Certaines tiraient le diable par la queue, mais toutes travaillaient sans relâche pendant des mois pour remplir les caveaux. Non, vraiment, Jacqueline exagérait, à moins qu'il ne lui cache quelque chose. « Me semble que c'est pas bien compliqué, Alans, non? » Sans répondre, son frère prit la Bible qui se trouvait sur l'autel et lui fit signe de la main. « Bon, je dois préparer mes sermons pour dimanche. On se voit demain soir. » La femme pinça les lèvres de dépit. Le curé venait de lui donner congé de manière un peu cavalière. Elle sortit de l'église à grande enjambée alors que Jacqueline la suivait du regard. « Je me demande si elle connaît bien la jeune Taillefer, » pensa le curé qui ne réalisait pas à quel point le désir qu'il avait pour Rosalie était en train de virer à l'obsession. « Tiens, la sœur, » lança Gérola, le regard dirigé vers la fenêtre située à côté de la porte du magasin. « Voilà ton beau Freddy qui arrive. Oh! » Il est pas tout seul, il s'amène avec Émile Pelletier. Me semble que lui pourrait te faire un bon prétendant, hein, Rosalie? » ajouta son autre frère. Gérola et William tournèrent tous les deux leur tête châtaine vers leur cadette, qui tira la langue de manière enfantine. Elle commençait à en avoir assez de les entendre se moquer du jeune pêcheur. C'est vrai qu'elle le trouvait à son goût, mais elle était bien consciente qu'il avait déjà une famille. Même si Émile ne l'attirait pas tellement, la marchande redressa les épaules et vérifia que son chemisier était bien boutonné. Dans le fond, peut-être bien qu'après quelques rendez-vous, le costaud lui chavirerait le cœur. Elle replaça ses peignes dans ses cheveux et fit mine d'être occupée à classer des factures quand les deux hommes entrèrent dans le magasin. « Allô, Girola, ton père est là? »« Oui, Freddy, il est dans son bureau. » L'homme sourit gentiment à Rosalie et remercia le jeune marchand. Puis il s'éloigna vers le fond du magasin. « Émile, oublie pas d'acheter des clous de 2 pouces, » avisa-t-il. Gaston ne leva pas la tête quand Freddy cogna à la porte vitrée. Et deux jaseux, assis autour d'un tonneau de bois, se moquèrent un peu. « Je pense qu'il veut pas te voir, le jeune. On dirait bien que ta morue l'intéresse pas. Es-tu certain que tu l'as bien séché? » Embêté, Freddy se retourna pour jeter un regard vers Rosalie. Et il rougit en voyant la belle perdue dans ses pensées. Il lui fallait arrêter de faire le pan devant la jeune femme, sinon Madeleine finirait par la prendre. Surtout que pour Freddy, c'était juste un jeu innocent. Pas de danger qu'il trompe sa femme avec la fille du marchand. Il était un homme honorable. Il cogna plus fort et Gaston lui fit enfin signe de rentrer. « Salut Freddy, qu'est-ce que tu veux? Penses-tu que je peux t'apporter mes barils d'huile demain en fin de journée? T'en as combien? Environ 70 gallons. » Les sourcils blancs de l'homme de 66 ans se soulevèrent pour montrer sa surprise. « C'est pas mal plus que l'an passé, me semble. Disons que la saison dernière, c'était pas ma meilleure. » grogna Freddy, qui n'avait pas envie de rappeler au marchand la noyade de son neveu. Mais le visage rougeoyant de Gaston montra qu'il avait réalisé la raison pour laquelle la pêche avait été moins bonne en 1934 pour le jeune poirier. Mal à l'aise de replonger dans cette tragédie, il se leva pour consulter un registre placé sur un long comptoir haut de 3 pieds. Le doigt glissant le long des colonnes de chiffres, il précisa finalement « Je t'en donne 22 cents le gallon. »« Hein? Ben voyons donc, c'est pas assez. » Freddy avait prévu s'acheter un peu de mousse à raser avec son profit. Mais s'il ne recevait que 15,40 $ pour son huile de foie de morue, il aurait de la difficulté à se gâter ainsi. L'arrivée du deuxième bébé rendait Madeleine plus pointilleuse et elle l'avait bien avisé que s'il voulait passer l'hiver sans trop gratter les fonds de tiroir, il leur fallait économiser tous les petits bénéfices qu'il réaliserait au courant de la saison. Le marchand à la calvitie de plus en plus prononcée leva ses bras dans les airs. « Je fais pas la charité, le jeune. Me semble que tu pourrais aller jusqu'à 25 cents au moins, ça ferait 17,50 $. » Faisant mine de réfléchir alors que sa décision était déjà prise, Gaston acquiesça en précisant « Je le fais pour toi, parce que t'es un bon client. Mais va pas raconter ça à tous les pêcheurs, sinon je vais finir par faire faillite. Merci bien, Gaston. Je t'apporte ça demain. » Freddy remit sa casquette sur sa tête et sortit du bureau vitré. Madeleine serait contente de savoir qu'il rapporterait une belle somme de 15 $ juste avec leur huile. Cette année, sa jeune épouse avait laissé à leur engagé le soin de s'occuper des foncières qui recueillaient les foies des morues que le pêcheur leur remettait chaque soir. « Moi, je vais saler les langues et les noves pour les rapporter chez nous. Toi, Émile, si tu pouvais gérer les foies et les têtes, ça ferait bien mon affaire », avait demandé Madeleine. « Pas de trouble », avait répondu Émile. « Moi, je peux m'occuper de ce que vous voulez ». Il avait donc séparé l'intérieur des foncières en deux avec des branches de sapin sec, pour que les foies placées d'un côté soient isolées de l'huile filtrée à travers les branches. Un jour d'été, le jeune Gustave s'était agenouillé près d'Émile lorsqu'il avait percé 3 trous dans le baril. « Tu vois, mon gars, les 2 premiers trous vont permettre de recueillir l'huile, mais le 3e va laisser sortir l'eau et le sang. Puis c'est de même qu'on va avoir la meilleure huile du village », avait patiemment expliqué Émile à l'enfant. Celui-ci avait plissé son visage bronzé par le soleil et maugréé. C'est jamais bon de l'huile de foie de morue, ça goûte les bas sales. Ça veut dire que tu manges des bas sales, Gustave? Avait lancé Philomène avant d'éclater de rire. Elle avait donné une tape sur l'épaule de son ami, puis s'était sauvée pour éviter qu'il l'attrape. La fillette trouvait que Gustave utilisait toujours des comparaisons bien comiques pour les aliments qu'il n'aimait pas. Satisfait de sa transaction, Freddy rejoignit le jeune pelletier, qui venait de s'arrêter devant le comptoir de Rosalie. Celle-ci, bien déterminée à tenter une approche auprès d'Émile, essaya de trouver du charme au visage rougi par le soleil. Elle savait que d'autres filles au village trouvaient que c'était un très bon parti, en commençant par sa meilleure amie Ludivine, qui lui avait dit « Si j'avais pas un promis, tu peux être certaine que je tenterais ma chance auprès du grand Émile. » Alors Rosalie avait attendu que le jeune homme passe devant son comptoir pour l'interpeller. « Alors Émile, t'aimes toujours ça, travailler à Lens, hein? » Surpris et gêné devant la jolie brune, le costaud hésita. Il n'était pas aveugle, il avait bien remarqué les attributs enviables de la fille du marchand. Mais Émile avait un but dans la vie, et c'était de devenir pêcheur. S'il se mettait à fréquenter Rosalie Taillefer, il n'aurait pas le choix de se joindre à l'équipe du magasin, et c'était hors de question. En tout cas, c'est ce que lui avait dit Freddy un soir, alors que tous les deux discutaient autour des vigneaux. « Il serait bien temps que tu trouves une femme, mon Émile. Qu'est-ce que t'attends? » « Bof, ici au village, il n'y a pas trop de filles célibataires. Il y a les sœurs Lévesque, mais elles sont jeunes un peu. Et la sœur des petits gingras? » Émile avait réfléchi et vu en pensée une maigrichonne aux cheveux noirs comme le fond de la mer. Peu attiré par Gabriel Gingras, il avait fait la moue sans répondre. Freddy avait alors éclaté de rire. « C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chair autour de ces eaux. » Les hommes avaient continué à faire le tour des prétendantes possibles du village jusqu'à ce qu'Émile déclare « C'est sûr que Rosalie Taillefer est un beau brin de femme. » Certain. Mais Freddy voulait égoïstement garder pour lui les œillades timides de la commerçante. Il avait donc affirmé, en sachant que c'était assez pour enlever à Émile toute idée de fréquentation, « Tu pourras accrocher ton fanal sur son balcon. Faudrait juste que tu abandonnes l'idée de devenir pêcheur. » Et cette perspective pour Émile était hors de question. Alors quand il fixa la jeune marchande au sein bien rond, il garda cette restriction en tête avant de répondre à sa question. « Ouais, j'aime bien ça, Alens. C'est certain que j'ai hâte d'embarquer sur une barge. À mon avis, je pense que l'année prochaine, je vais être capable de m'acheter mes agrès. Après ça, il me restera juste à trouver un pêcheur qui voudra bien me donner une chance. » Rosalie hocha la tête tout en observant l'homme, qui avait encore plus rougi après cette longue réponse. Il avait une tête blonde bien fournie, des dents un peu écartées, mais pas jaunies par le tabac, et une taille bien enviable. La femme le trouvait quand même un peu trop costaud, mais pensant aux recommandations du curé Gérard, elle se pencha un peu vers l'avant du comptoir. « J'espère bien que tu vas revenir au magasin avant de retourner à Gaspé, mais qu'on va pouvoir jaser un peu plus. » minauda-t-elle en ouvrant ses yeux bruns bien grands. Émile déglutit devant la poitrine appétissante, le cou gracile et les mains aux doigts fins. Il cherchait quoi répondre lorsque Freddy arriva à leur côté, en relevant les épaules pour éviter que la différence de taille entre son ami et lui ne paraisse trop. Un sourire éclatant sur son visage hâlé, il pointa un tube de mousse à raser derrière la marchande. « Monte-moi donc ça, Rosalie! » La jeune femme se retourna, et les deux amis ne purent s'empêcher d'observer son postérieur lorsqu'elle s'étira pour saisir l'objet demandé. Elle déposa la crème palmolive sur le comptoir vitré et se moqua un peu de Freddy. « Tu vas sentir bon comme la forêt avec cette mousse-là. Ta Maddie est chanceuse. » Puis elle éclata de rire, et les hommes l'accompagnèrent. Pendant quelques minutes, les trois jeunes discutèrent de choses et d'autres, et au bout d'un moment, Freddy lança à regret « Bon, ben, moi, je vais y aller. Je veux pas que Maddy et Palmyre attendent pour souper, et il est déjà presque 7 heures. Tu viens, Émile? » Peu désireux de laisser son jeune engagé rôder auprès de Rosalie, le pêcheur haussa des sourcils inquisiteurs pour inciter ce dernier à le suivre. Mais à son grand désarroi, l'autre marmonna sur un ton qui manquait d'assurance. Je pense que je vais te voir demain. J'ai besoin d'une coupe d'affaires. Ah? Ben, OK d'abord. Lorsqu'il était revenu s'installer à Lens-à-la-Joie au printemps, Émile avait choisi de louer une chambre dans les baraques de la Robin, sur le chemin en direction de Percé. Il se voyait mal partager la chambre du bébé Arthur et avait préféré laisser son intimité à la jeune famille. Sans le mentionner, Madeleine avait soupiré de soulagement. Freddy salua donc le duo et lança une boutade à Girola à propos de ses oreilles brûlées par le soleil, avant de sortir du magasin général un peu dépité. « J'ai bien l'impression qu'Émile va tomber dans les filets de la belle Rosalie. »« Ah ben tant pis !»